Bonjour professeur Régnier, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des limitations des thérapeutiques en réanimation. Vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive et réanimation du CHU de Nantes. Première question, que change la loi Leonetti sur la fin de vie pour un réanimateur ?
Alors une petite précision, c'est la loi Claeys-Leonetti, puisque la loi Leonetti date de quelques années. Alors elle change, la loi Claeys-Leonetti change quatre points fondamentaux. La prise en charge palliative, les directives anticipées, je vais y revenir, la sédation profonde et l'alimentation et l'hydratation artificielle qui sont désormais considérées comme des traitements et plus comme des soins. Alors concernant les soins palliatifs, il s'agit d'introduire la prise en charge palliative de façon systématique et plus organisée dans la prise en charge quotidienne des patients, pas que des patients de réanimation, bien sûr, mais de l'organiser de façon systématique. Presse, la préparation de la loi avait pointé un déficit de la prise en charge palliative dans les services conventionnels. Alors l'enjeu pour les services de réanimation, c'est d'organiser cette prise en charge par des équipes infirmières et médicales formées, plutôt que de faire appel à des équipes extérieures, de savoir organiser une prise en charge palliative dès le début de la prise en charge des malades, même s'ils ne sont pas en fin de vie. Il s'agit, pas sans limiter ça à l'appellation soins de confort, il s'agit d'organiser une prise en charge palliative, autrement que sur les traitements proprement curateurs, dès le début de la prise en charge des patients. Concernant les directives anticipées, l'aspect qu'introduit la loi, c'est qu'elle s'impose désormais aux médecins et aux équipes qui prennent en charge les patients. La problématique actuelle, c'est qu'elles sont rarement écrites par moins de 5% de la population, plutôt entre 2 et 3% de la population générale dans un pays comme la France. Et même quand on stimule, quand il y a des campagnes pour faire écrire les directives anticipées à la population générale, comme en Allemagne, on atteint péniblement 20-25% de la population. Mais le rôle des réanimateurs dans l'immédiat, ce sera d'aider les patients et les médecins qui s'occupent de patients atteints de pathologies chroniques à écrire ces directives anticipées. Et la SRLF, par sa commission d'éthique, s'est engagée dans un travail d'aide à l'écriture des directives anticipées pour les patients. On va très bientôt publier un document et un fascicule d'aide à la rédaction des directives anticipées des patients. Concernant la sédation profonde, la loi introduit un droit aux patients à mourir endormi, sans se voir mourir ni souffrir. Et par exemple, pour ce qui concerne la prise en charge en réanimation, cette sédation profonde est obligatoire chez le patient inconscient pour s'assurer complètement qu'il ne souffre pas physiquement, mais même éventuellement moralement aussi. Et elle est possible, elle doit être proposée chez le patient conscient pour lequel une décision d'arrêt d'un traitement de suppléance, par exemple la ventilation mécanique, peut générer une douleur, un inconfort, une douleur qu'elle soit physique ou morale. Quatrième point, l'alimentation et l'hydratation artificielle ne sont plus considérées comme des soins mais comme des traitements. C'est un point fondamental parce qu'il a été fortement discuté avec les autorités religieuses qui s'opposaient à ça, mais aussi par le Sénat lors de la rédaction de la loi qui avait réintroduit la notion de soins. En effet, si on n'arrête jamais les soins, on peut arrêter un traitement et donc on peut arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle lorsqu'elles sont injustifiées, qu'elles ne correspondent plus au projet thérapeutique du patient.
Donc deuxième question, comment prendre et gérer une décision de limitation des thérapeutiques en réanimation ?
Donc là, je vais plus vous parler d'expérience personnelle et de ce qui est pratiqué ou ce que je préconise de pratiquer dans le service. Vous savez que les pratiques sont très très différentes d'un service à l'autre et il ne s'agit pas de s'imposer, de généraliser nécessairement des pratiques. Mais on peut poser quand même quelques principes. En particulier, un premier principe, c'est que le projet et le niveau d'engagement thérapeutique doivent être discutés ou au moins évoqués chaque jour, lors de la visite, lors du staff. et autant de fois que nécessaire en fonction de l'évolution du patient, de l'état du patient, mais aussi de ce que rapportent les proches et de ce que rapportent les équipes. Un point essentiel qui est paradoxalement parfois un petit peu négligé, c'est qu'il faut avoir une connaissance approfondie, ça paraît évident, mais du dossier du patient, connaître vraiment le dossier dans ses moindres recoins avant de prendre une décision dite de fin de vie en réanimation, comme partout d'ailleurs. L'autre aspect fondamental, c'est d'avoir une connaissance approfondie des souhaits du patient, mais au-delà des souhaits du patient, de connaître ce qu'est le malade, ce qu'il était, quelle était sa vie, sa manière de conduire sa vie, son existence. Et de, in fine, le but, c'est de savoir si la décision qu'on va prendre lui correspond. Et est-ce que ce qu'on va décider là correspond, au-delà de ses souhaits, à ce qu'il était ? Enfin, cette décision doit être partagée, pas seulement la décision, mais les modalités de prise de décision, les discussions doivent être partagées par tous, par tous les membres de l'équipe qui connaissent le malade, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du service. Elle doit être partagée avec le patient, bien sûr, si c'est quand il est conscient, mais donc avec ses proches dans le cas contraire. Et même si, bien sûr, c'est le médecin qui sera responsable de la décision, mais une décision doit être partagée par tous ceux qui tournent autour du patient quand lui-même n'est pas, surtout quand lui-même n'est pas capable de s'exprimer. Un autre point essentiel, c'est qu'une décision ne doit pas être considérée comme irrévocable. C'est pour ça que je déteste ces feuilles qui suivent le patient dans son dossier, patient à ne pas réadmettre en réanimation. Une décision doit être adaptée à la situation du patient, elle doit être réajustée, si ce n'est chaque jour, au moins à chaque changement. Et il faut savoir remettre en cause une décision, y compris d'arrêt de traitement, lorsque finalement des éléments nouveaux font qu'elle paraît inappropriée. Enfin, il faut bannir des termes comme latte, bien sûr laté, qui est relativement abject, mais aussi limitation à arrêt des traitements et en tout cas arrêt des soins, parce qu'on n'arrête jamais les soins, mais on n'arrête que des traitements et des traitements qui sont susceptibles de prolonger de façon inutile, même si le mot inutile, on n'est pas dans une vision utilitariste, mais on voit bien ce que cela veut dire, qui prolonge inutilement la vie.
Donc troisième question, la frontière entre soins et obstination déraisonnable est-elle toujours évidente ?
Alors bien sûr que non, bien sûr elle est pas évidente, mais bon, on va pas dire soins et obstination déraisonnable, hein, puisque les soins, il y a toujours les soins, j'en ai parlé lors de la question précédente, mais la limite, disons, entre une prise en charge en réanimation et l'obstination déraisonnable, et tout ce qu'une prise en charge en réanimation peut comporter, obstination déraisonnable, elle n'est pas toujours évidente. Mais paradoxalement, là je voudrais plutôt insister sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'obstiner, en fait. On est quand même en réanimation devant des patients qui sont dans un état très grave, devant des patients qui peuvent paraître physiquement et moralement extrêmement dégradés par la situation qu'ils affrontent et qui donc peuvent dire « j'en ai marre ». Et très souvent, c'est un discours qui nous est rapporté, tu sais, vous savez, le patient en a marre, ses proches en ont marre, personne ne voit le bout, est-ce que ça a un sens tout ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, parfois, il faut s'obstiner et paraître un petit peu déraisonnable. Il faut savoir expliquer pourquoi telle patiente, qui est par exemple relativement âgée, mais avec un Guillain-Barré complètement paralysé, ben, va récupérer et qu'on saura s'arrêter si jamais ça n'a plus de sens. Mais il faut savoir être patient et attendre quelques semaines et parfois un peu plus. Et c'est plutôt ce message-là, paradoxalement, que je voulais porter à cette question-là.
Et la question bonus, pourquoi faire de la réanimation ou que diriez-vous à un jeune qui veut faire de la réanimation ?
Bon, alors pour moi, ça reste la plus belle spécialité et un des plus beaux métiers du monde. Vraiment, je le pense, j'y suis extrêmement attaché et passionné. Moi, je voulais être généraliste. Et initialement, j'ai fait médecine pour être généraliste. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette spécialité, c'est son aspect médecine générale, en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de moyens pour régler des problèmes complexes. Ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec ces équipes qui sont conséquentes. Maintenant médical, on est des équipes conséquentes avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Maintenant, c'est des équipes très mixtes, on n'est plus que entre hommes. Non, mais c'est vrai, ça a beaucoup, ça, sans démagogie aucune, c'est une discipline. Alors, c'est vrai pour la médecine en général, mais c'est très très désagréable de travailler dans des équipes avec des gens d'horizons aussi variés, avec les infirmières, avec les aides-soignantes. Pour moi, la qualité d'un service passe par la qualité des soins, et participer à la formation, aux discussions avec les infirmières et les aides-soignantes, c'est une richesse incroyable. Voilà. Et puis, on est un peu... on est des passeurs, et ça, j'aime beaucoup ça aussi. On est à un moment, certes important, mais on n'est qu'à un moment de la vie des malades, il ne faut pas l'oublier. Et quand on se dit ça, ben on fait en sorte d'assurer, d'améliorer leur qualité de vie après, et de faire en sorte qu'ils n'aient pas une qualité de vie trop catastrophique. Donc c'est vraiment un des plus beaux métiers. En plus, petite cerise sur le gâteau, on a quand même beaucoup, beaucoup de moyens matériels pour prendre en charge nos malades. On est loin d'être les plus pauvres dans les hôpitaux, et c'est important aussi.